Chapitre 1. Comment surmonter les épreuves pour réussir sa vie? Quelqu'un a dit, plus la tâche à laquelle Dieu nous appelle est grande, et plus il prendra de temps pour nous y préparer. Pour Joseph, 13 années hautes en couleurs et semées d'embûches feront partie de cette préparation. Il naît dans une famille polygame. Son père Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, a 4 femmes. Léa et Rachel, qui sont sœurs, et leurs servantes respectives Zilpa et Bila. Joseph a ainsi 10 frères aînés, un frère cadet et une sœur. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur dit-il. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'inclinèrent devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage, à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. En comparant diverses versions, nous comprenons qu'un fossé sépare la mentalité de Joseph de celle de ses frères aînés. La bouche exprime ce qui déborde du cœur. Mauvaise parole, mauvaise réputation et, comme nous le verrons bientôt, mauvais cœur unissent cette fratrie. C'est le milieu dans lequel Joseph grandit et apprend un métier. Il serait certainement plus facile pour lui de se mouler dans l'atmosphère ambiante en prenant exemple sur ceux qui l'entourent, mais il n'a pas l'étoffe d'un caméléon. Il est de ceux qui osent être minoritaires quand la justice est en jeu. Lui, le petit, résiste et dénonce courageusement l'attitude de la majorité. Sa conduite ferme, ajoutée à l'affection que lui témoigne son père, on lui attirait une animosité grandissante. Le message humain qu'il reçoit, journellement, s'apparente certainement à celui-ci. « Apprends à vivre et à parler comme nous, obéis-nous et rejoins nos rangs. » Mais le message divin est tout autre. « Tu peux résister aux mauvais exemples, apprendre de moi à vivre et à t'exprimer, et entrer dans la vocation que j'ai pour toi. » Dieu, quand il s'agit des hommes, n'aime pas les photocopies. Même les jumeaux ont des personnalités bien marquées. Il choisit ces circonstances pour parler à Joseph à 2 reprises par des songes. C'est le moment où le choix des valeurs qui orienteront toute sa vie est en train de mûrir en lui. Pourquoi ces songes? Ceux-ci lui donneront une solide espérance pour affronter les années d'épreuve que lui feront subir les hommes corrompus. Comme l'étudiant en médecine qui supporte nuit blanche, week-end d'études et parfois pauvreté grâce à la conviction qu'un jour il exercera dans tel pays ou telle spécialisation, Joseph sera porté par la conviction que sa vie, entre les mains de Dieu, trouvera sa pleine raison d'être. Ses frères parcourent maintenant de vastes régions avec leurs troupeaux. Ils se retrouvent bientôt très loin du campement familial, à Sichem. Cette fois, Joseph, pour une raison que nous ignorons, est resté auprès de son père. Celui-ci lui dit un jour, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les trouver de ma part. »« Oui, père, » répondit Joseph. À 17 ans, Joseph a une qualité essentielle, l'obéissance. Elle permettra à Dieu de le garder dans l'aventure qui se prépare. Après un long périple pour atteindre Sichem, l'adolescent devra poursuivre sa recherche jusqu'à Dothan, plus de 20 kilomètres au-delà. À son arrivée, une mauvaise surprise l'attend. Ses frères l'aperçoivent de loin, et avant même qu'il ne les rejoigne, ils complotent de le faire mourir. Hé ! Voici l'homme au rêve, se dirent-ils les uns aux autres. Profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors si ses rêves se réalisent. L'épreuve de la foi. Jacob a connu un brisement et une transformation dans sa marche avec Dieu. Joseph s'est ouvert à cette communion et sa vie en est déjà marquée. Les frères aînés, par leur mauvaise réputation, leur regard envieux et leur inimitié, témoignent d'une vie pleine d'eux-mêmes, animée par des ambitions purement humaines. Leur jalousie semble exacerbée, viscérale. Ce n'est pas uniquement une question de tunique et de préférence qui inspire ce plan meurtrier, mais un conflit bien plus profond, celui qui oppose les ténèbres et la lumière. La lutte permanente entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel éclate au grand jour. Ils ont certainement pressenti le côté divin des visions que Joseph a reçues. C'est précisément ce qui leur est insupportable. Lançant indirectement un défi à Dieu, ils vont tenter de les anéantir une fois pour toutes. Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était à sec, complètement vide. Au terme de ce long voyage, mandaté par les préoccupations de son père, la tempête se déchaîne. Elle secoue à présent le cœur et les pensées de Joseph, qui, dans ce sombre réservoir, attend la mort, tel un rat piégé au fond d'un trou. Ses gardiens sont nombreux et ils ont décidé sa perte. Il n'existe aucune issue, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. On peut imaginer Satan lui susurrer « Alors, tu vois bien que Dieu ne tient pas ses promesses. D'ailleurs, s'est-il jamais préoccupé de toi ? Tu n'as plus d'avenir, c'est ici que se termine ta vie. Tu n'iras jamais au-delà de tes 17 ans. » Ses frères s'assirent pour manger. Ils virent passer une caravane d'Ismaélites qui venait du pays de Galaad et se dirigeait vers l'Égypte. Leurs chameaux transportaient diverses résines odoriférantes. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. Malgré tout, il est de notre famille, il est notre frère. » Ils donnèrent leur accord. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. L'épreuve du rejet. Ruben, l'aîné, avait réussi in extremis à empêcher le meurtre de Joseph avant même qu'il ne soit jeté dans la citerne. Il espérait secrètement pouvoir le sauver. En son absence, Judas propose maintenant de transformer la sentence en esclavage. Pour Joseph, prisonnier au fond de la citerne, le monde a basculé. Mais soudain, l'espoir renaît. Une corde descend vers lui. Il s'y agrippe, croyant peut-être que cette mésaventure prendra fin, tel un atroce cauchemar, et qu'il pourra retourner vers son père. Remonté à la lumière, il découvre cependant qu'il n'est pas la victime d'un simple mouvement d'humeur, mais bien de rejet absolu. L'argent passe à présent des mains des marchands à celles de ses frères. Ils vendent ainsi ce qui ne leur appartient pas. On attache probablement Joseph derrière les chameaux, qui, pas après pas, disparaîtront à l'horizon. Ces 20 pièces d'argent vont être à l'origine de plus de 20 ans de mensonges, de culpabilité et de deuil pour cette famille, descendante d'Abraham, qui aurait dû être l'une des plus heureuses sur terre. Vendu comme une marchandise, Joseph part à demi nu vers un pays qu'il ne connaît pas, loin de se douter qu'il y restera 93 ans. Fils choyé d'un grand éleveur, bénéficiant d'un statut social hautement privilégié et rempli de promesses, il dégringole d'un seul coup tous les échelons de la société pour devenir un esclave privé de tous ses droits. En un instant, il perd sa famille, ses amis, son pays et sa liberté. Il ne lui reste rien, pas même la possibilité de s'exprimer dans sa langue maternelle avec ses nouveaux maîtres. Les épreuves les plus dures sont celles qui proviennent de nos frères et sœurs. c'est-à-dire de ceux qui nous sont les plus proches. Quand notre famille, notre église, notre chef, notre mari ou notre femme nous rejette, notre cœur et notre personnalité en sont bien plus affectés que si un étranger le fait. Le texte nous révélera plus loin qu'au moment de cette macabre transaction, Joseph avait une expression angoissée et suppliante. Lire cette histoire comme si elle était un roman ne nous permettra pas de réaliser la douleur qui, à cet instant, a paralysé ce jeune berger. Il est possible que l'un ou l'autre de ses frères ait éprouvé de la pitié pour lui. Un seul mot, du moindre d'entre eux, aurait pu faire basculer ce plan maléfique, mais chacun s'est cloisonné dans un silence coupable. Il en est de même aujourd'hui dans de multiples situations. Les vrais amis, courageux et justes, ouvriront leurs lèvres, parfois au péril de leurs acquis, pour défendre celui qui est injustement attaqué, ou pour soutenir une juste cause. Mais les camarades d'antan, les faux frères et tous les poltrons préféreront un confort malsain au combat de la foi et laisseront faire dans les instants les plus cruciaux. Jésus lui-même avait des foules de fervents admirateurs, mais au pied de la croix, il ne restait qu'une poignée de courageux fidèles. Paul était connu et apprécié de milliers de chrétiens dans ses voyages missionnaires. Il écrit cependant du fond de sa prison « Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. » 2 Timothée 4, verset 16. Un soutien opportun quand une personne est en position de faiblesse est une preuve irremplaçable d'amour et de maturité. Les riches et les forts ont toujours une cour nombreuse de courtisans. Où sont donc leurs vrais amis? Ils se trouvent souvent parmi ceux qui l'étaient déjà, alors qu'ils étaient plus vulnérables. Les fils de Jacob vont, bien entendu, cacher ce crime à leur père. Pour cela, ils trempent la tunique de luxe dans le sang d'un animal et la lui renvoient accompagnée de cette cynique question « Reconnais-tu la tunique de ton fils ?» Un mensonge, lorsqu'il est cru, a autant d'impact que la vérité. Jacob ne se remettra pas de cette félonie. Il croit que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Quelque chose s'éteint alors définitivement en lui. Il refusera de cesser de porter le deuil. La tromperie et la tristesse vont désormais ronger cette famille. Ses 10 fils, Benjamin de 6 ans, plus jeune que Joseph, étant étranger au complot, porteront ce poids durant de longues années. Chaque fois qu'ils verront une larme dans les yeux de leur père, chaque fois qu'ils évoqueront la disparition de Joseph en se regardant les uns les autres, le fardeau de leur culpabilité amènera une atmosphère aussi sombre que pénible. Qu'advient-il de Joseph? L'épreuve du succès. Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia l'administration de sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Comme la plante perce le goudron et fleurit, ainsi la lumière triomphe des ténèbres. Les fils de Jacob pensaient se débarrasser d'un gêneur. Ils ont en réalité perdu l'essentiel, la bénédiction de Dieu. Elle semble en effet être partie en exil avec Joseph. Pourquoi? Serait-il le chouchou de Dieu? Beaucoup de gens lisent ce récit comme si c'était le cas. Ils pensent que la bénédiction de Dieu est automatiquement liée à certains appels, et ils expliquent ainsi la vie des personnages bibliques comme Élie, Anne, Esther, Pierre, Jean. Ils confondent vocation et bénédiction. L'Écriture affirme que nous sommes de la même nature que tous les hommes et femmes de foi qui nous ont précédés. Jacques, chapitre 5, verset 17. Que servirait-il à Dieu de nous donner ses héros en exemple s'ils ne l'étaient que par préférence divine? Nous venons de voir que ceux qui deviendront les pères des tribus d'Israël n'ont, pour l'instant, pas plus de bénédiction que Caïn en personne. Dieu, nous l'avons déjà compris, accorde souverainement une vocation à chaque être humain dès le sein de sa mère, et cela n'a rien à voir avec sa conduite. Mais cet appel n'est béni que dans l'obéissance. Il est vrai que cette dernière n'achète pas la bénédiction. Tout est grâce, mais elle la rend possible. Saül, premier roi d'Israël, l'est bien devenu par décret divin. Sa conduite, cependant, s'est dégradée au point que la vengeance, le désir de meurtre et les esprits mauvais ont fini par infester sa vie. David, choisi par Dieu, a amené par sa faute avec Bathsheba et le meurtre de son mari la violence dans toute sa famille. Salomon a achevé sa carrière avec près de 1000 femmes qui l'ont entraîné à l'idolâtrie. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples de rois, de prophètes et de sacrificateurs choisis par Dieu avant leur naissance, qui ont commencé dans la bénédiction et fini sans elle. Si nous confondons l'appel de Dieu et son approbation, nous assombrissons de nombreux textes. Ils perdent ainsi l'influence que Dieu voudrait leur donner. Nous en arrivons alors à questionner sa justice et à nous décourager de le servir. Quand les gens de Nazareth, par la bouche de Jésus, ont compris que vocation et bénédiction n'étaient pas automatiquement liées, ils sont devenus si furieux qu'ils l'ont emmené directement de la synagogue à la falaise pour l'y précipiter. Qu'avait-il bien pu dire? Ses propos avaient été les suivants. Malgré les nombreuses veuves du peuple élu qui avaient souffert de la famine au temps d'Élie, celui-ci n'avait pas été envoyé vers l'une d'elles, mais vers une veuve de la région de Sidon. Il avait encore ajouté, il y avait aussi bien des lépreux dans le peuple juif au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri. C'est Naaman le Syrien qui le fut. Luc 4, verset 27. Joseph n'est donc pas le chouchou de Dieu. Il fait bel et bien face aux mêmes défis et sentiments que nous, et c'est précisément ce qui nous permet de nous identifier à son aventure et de le prendre en exemple. Si Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, comment se fait-il que l'entourage égyptien de cet adolescent soit à la faveur d'une telle bénédiction? Le psaume 1 nous donne la réponse. Heureux celui qui trouve son bonheur dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous pouvons en conclure que Joseph a passé l'épreuve de la foi au fond de sa citerne, puis l'épreuve du rejet, en continuant à vivre selon les principes divins, c'est-à-dire en surmontant le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ce verset bien connu est souvent mal interprété. Signifie-t-il que toutes choses tendent automatiquement au bien de chaque chrétien? Non, seulement de ceux qui continuent à aimer Dieu malgré les circonstances adverses. Le péché, cesser d'aimer Dieu, comme l'amertume, la rancune, la haine, ne contribue pas du tout à notre bien. Que nous soyons missionnaires ou nouveaux convertis n'y change rien. Si, par l'usure des années, un chrétien s'aigrit et devient cynique et incrédule, les mauvais fruits qui en découleront n'œuvreront aucunement à son bien, mais au contraire, ruineront sa vie. Si nous cessons d'aimer Dieu, les circonstances cessent de coopérer à notre bien. Pratiquer le péché concourt à notre mort. La repentance concourt à notre bien, car elle est un retour à Dieu. Toutes les fois que nous continuons, envers et contre tout, à estimer Dieu digne de notre confiance et de notre amour, il s'engage formellement à déployer sa puissance et sa sagesse pour faire converger toutes choses pour notre bien. Je ne crois pas qu'il y ait deux Saint-Esprit, l'un attristé par une situation donnée et l'autre nous incitant à le louer pour cette même situation. Quand l'esprit est attristé par une offense, le louer pour cette dernière équivaut à lui en attribuer la responsabilité finale. Ce n'est pas parce que Dieu rachète, répare et restaure une situation que le mal qu'il a causé s'en trouve justifié. Dieu justifie le pécheur, jamais le péché. Il se trouve pourtant une multitude de chrétiens qui, sans s'en rendre compte, justifient ce dernier. Ils avancent des idées erronées qui font, pour la victime, autant de mal qu'un couteau dans une plaie. En voici un exemple. Admettons que quelqu'un vous agresse par pure malveillance et vous fracture la jambe. Hospitalisé, vous jouissez réellement de ce temps d'arrêt et, de plus, une personne alitée à vos côtés se convertit par votre témoignage. Beaucoup vous diront « Heureusement que cette mésaventure vous est arrivée, elle est une bénédiction. » La malveillance devient soudain une bonne chose à leurs yeux. Elle est perçue comme l'amie secrète de Dieu. Sans s'en rendre compte, on appelle ainsi le mal bien et le bien mal, ce que l'Écriture réprouve sévèrement. Ésaïe 5, verset 20. Cet acte méchant est horrible et le sera toujours. Il est l'ennemi de Dieu et le restera pour l'éternité. Dieu n'est pas une girouette, attristé par un méfait le lundi et applaudissant ce même méfait le vendredi. Où est donc la vérité dans un tel cas? Si, au lieu de nourrir de la rancœur envers votre agresseur, vous lui avez pardonné, surmontant ainsi le mal par le bien, l'onction, la consolation, la sagesse de Dieu vont créer au sein de la détresse une nouvelle situation. Je ne veux pas dire par là que Dieu nous abandonne si nos combats sont chaotiques, ce n'est pas le point soulevé ici. La puissance créatrice de Dieu a fait jaillir la vie là où la mort aurait pu triompher. Vais-je en faire un prétexte pour justifier le péché? Jamais. Vais-je louer Dieu pour la malveillance? Jamais. Vais-je louer Dieu pour son amour, sa créativité, son pardon, son salut et sa guérison? Bien sûr. Face au mal, l'Écriture ne nous appelle pas à la louange, mais au pardon. Le salut de Dieu restaure. Il n'exalte pas le péché. Joseph n'a certainement pas loué Dieu d'avoir été vendu, mais il a continué à l'aimer et à aimer ses frères en pardonnant leurs fautes. Il a ainsi conservé et amené la bénédiction divine chez son nouveau maître. Nourrir amertume et pitié de soi représentait une forte tentation. S'il y avait succombé, Potiphar n'aurait acheté qu'un esclave éteint, rempli de pensées de vengeance inassouvies. Quelqu'un a dit « Je ne permettrai à personne de détruire ma relation avec Dieu en m'obligeant à haïr. » Comme les ténèbres n'ont pu envahir son cœur, c'est la lumière qui a inondé les propriétés de Potiphar. En plusieurs étapes, Joseph passe du statut du dernier esclave venu à celui de bras droit du maître des lieux. Il est maintenant l'intendant respecté d'un magnifique domaine, position aussi inattendue qu'exceptionnelle. Il a de multiples serviteurs sous ses ordres et tout prospère entre ses mains. Arrivé à ce stade, il aurait pu se dire « Je n'ai pas encore 20 ans et ma position est déjà plus importante que celle de mon propre père. » Ce succès aurait pu lui monter à la tête. Épousant les plaisirs et coutumes attachés à sa fonction, laissant ses affaires et responsabilités étouffer peu à peu sa communion avec Dieu, il aurait pu mettre sa foi en veilleuse. L'onction divine aurait alors disparu. Certains jeunes disciples sont enflammés pour Christ alors qu'ils ne gagnent que 100 ou 500 € par mois. Ils ont peu d'influence sur la société, mais leur cœur est ardent. Cependant, quelques années plus tard, on les retrouve exerçant de grandes responsabilités comme médecins, avocats ou directeurs. Ils gagnent 10 ou 20 fois plus, mais sont devenus spirituellement tièdes. Ils ont perdu toute vraie saveur pour la société qui les entoure. Ce n'est pas une fatalité, mais ceux qui ne se préparent pas au succès risquent d'en devenir les victimes. L'épreuve du harcèlement sexuel. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit « Viens au lit avec moi ». Il y a quelque 3 800 ans que ces choses se sont déroulées. Nous n'assistons donc pas ici à une scène admirable de libération sexuelle, mais à une tentative immorale vieille comme le monde. Souvenons-nous que Joseph n'avait ni Bible, ni pasteur, ni groupe de jeunes. Il ne reçut ni coup de fil, ni courrier électronique, ni même de temps à autre une lettre de son père avec ce genre de propos. Mon cher Joseph, comment va ta mission en Égypte? On pense souvent à toi. Tu recevras sous peu un beau fromage, celui que tu aimes. Si tu perds courage, pense à nous et n'oublie pas que dans 2 mois tu seras de retour à la maison. Il aurait pu penser, après tout, cette femme est très belle. Il est temps que je m'adapte à la culture locale. C'est un principe missionnaire. Chez moi, ça ne se fait pas, mais ici, ma patronne me demande de coucher avec elle. Soyons soumis aux autorités. Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Joseph n'a pas une moralité de thermomètre qui s'harmonise à la température ambiante, mais plutôt de thermostat qui règle cette température. Il ne corrompt ni sa pensée ni celle de son Dieu. Sa conduite ne dépend ni du qu'en dira-t-on, ni de la crainte de la punition, mais elle est enracinée dans la certitude que les voies de Dieu sont bien meilleures que les appâts du serpent. Couche avec moi est un harcèlement plutôt direct. En voyageant avec mon épouse, nous avons constaté que, même parmi ceux qui se réclament de Christ, de tels impératifs, bien étranges et tout aussi manipulateurs, circulent. En voici quelques échantillons. Dieu m'a dit que tu devais devenir ma femme. Une jeune chrétienne était ainsi tenue liée depuis plusieurs années. Elle nous confia sa détresse. Je n'aime pas cet homme, et je ne veux pas qu'il devienne mon mari. Mais j'ai peur de désobéir à Dieu et de rater complètement ma vie. Nous avons répondu. Si Dieu ne vous a pas donné de conviction personnelle, il serait faux et imprudent de répondre à ses avances. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes, conformément à 1 Corinthiens 7, verset 23. Si tu me quittes, je me suicide. Fréquenter sous la menace est pure folie. Épouser une personne qui tient régulièrement de tels propos est pire encore. Tu dois faire l'amour avec moi, sans quoi je ne pourrai plus me maîtriser. Faut-il être aveugle pour céder à un tel ami et espérer trouver ensuite en lui un mari fidèle? Dans ce même registre, un propos moins direct mais tout aussi dangereux est évoqué. Je me sacrifie pour lui ou pour elle. Nous ne sommes pas ainsi appelés à épouser un boulet, mais un partenaire. C'est ainsi qu'une jeune fille qui se sent appelée à œuvrer en faveur des alcooliques ne va pas en épouser un pour ruiner sa vie et celle de ses enfants, mais épousera un jeune homme partageant sa compassion. Ensemble, ils pourront devenir un instrument de guérison efficace pour les esclaves de l'alcool. Un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail. Les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi ». Son intégrité est directement menacée, mais également, comme la suite le prouve, sa situation professionnelle et sociale. La tension est à son paroxysme. Si ce jour-là Joseph avait cédé, toute la carrière que Dieu avait en réserve pour lui aurait été anéantie ou pour le moins compromise. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. De nos jours, en pareille situation, certains auraient tenté d'évangéliser la séductrice, et ils seraient tombés. D'autres se seraient mis à prier, et ils seraient tombés. D'autres encore auraient livré un combat spirituel contre les esprits impurs, et seraient peut-être aussi tombés. Pourquoi? Parce que la parole dit, Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. Si Dieu nous ordonne de fuir, la chose la plus sage et la plus spirituelle à faire est de prendre la fuite. Je crois à l'évangélisation, à la prière et au combat spirituel, mais ici, seule la retraite était vraiment sage. C'est ainsi qu'il vaut mieux faire 10 kilomètres à pied sous la pluie à 3 heures du matin que de tomber dans l'impudicité dans la voiture qui vous ramène à la maison. Il vaut mieux paraître ridicule dans une soirée de retrouvailles et continuer à marcher droit avec le Seigneur que de jouer les champions de la corde raide et finir knock-out sur le ring du diable. Joseph sort victorieux de cette perfide tentation. Il restera intègre malgré un harcèlement sexuel acharné. L'épreuve de l'injustice. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir, cet hébreu que mon mari nous a amené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Selon le récit qui suit, nous comprenons qu'il n'y eut ni enquête, ni procès, ni défense, et pas même de peine prononcée à l'encontre de Joseph. Il est jeté en prison sans jugement et risque de ce fait la perpétuité. Il se trouve en terre étrangère, incarcéré injustement, sans recours possible, privé de tout contact avec les siens et ignoré. Sa condition est pire que celle d'un esclave, qui, lui, peut au moins espérer vivre à l'air libre, se marier, avoir des enfants. Sa foi et une vision énigmatique de l'avenir restent ses seuls appuis. Nous avons tous, dès l'enfance, un sens aigu de la justice. Il suffit d'observer des bambins jouer pour s'en persuader. Pourtant, l'injustice baigne notre monde. Quand elle nous frappe, c'est l'une des épreuves les plus lourdes à porter. Plus encore, quand elle fait suite à des choix aussi difficiles que loyaux, comme Joseph vient de les faire. Tel élève, le seul à ne pas avoir triché, est puni avec les autres. Tel ouvrier, victime de sa droiture et de sa loyauté, perd finalement sa place. Telle épouse, d'une fidélité irréprochable, est trompée puis abandonnée. Tel restaurateur, refusant une protection mafieuse, est ruiné. Telle étudiante en médecine, défendant une éthique chrétienne, est humiliée puis renvoyée. À l'école du Saint-Esprit, nous recevons une formation de prince et de princesse. Elle ne dure que quelques dizaines d'années, mais elle est exigeante. L'éternité, elle, par définition, est infinie. C'est seulement sur cette terre que nous apprenons à marcher par la foi, à surmonter l'adversité, à résister à la tentation, à pardonner, à avancer à contre-courant et à nous appuyer dans les pires injustices, sur Jésus, notre avocat et défenseur. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Hébreux 10, verset 30. Lorsqu'une injustice conséquente est commise, elle demande un vrai pardon. Le Seigneur ne conteste pas l'aspect scandaleux des abus, mais il nous invite à le choisir comme premier avocat. La justice et la récompense suprême lui appartiennent de manière très concrète. Une nuit, à l'étranger et sous les intempéries, une voiture percuta la mienne par l'arrière. Après un bref constat à l'amiable, comme on peut le faire en pareille circonstance, chacun repartit. Je revins dans mon pays avec une voiture qui ressemblait à un œuf de Pâques après qu'on l'ait choqué. Quelle aide pouvais-je espérer d'une compagnie d'assurance éloignée et inconnue? C'est alors que je me souvins que Jésus revendique le titre d'avocat. Je lui demandai de l'être pour moi dans cette affaire. Quelques jours plus tard, un chèque de l'assurance en question, couvrant toutes les réparations, se trouvait dans ma boîte à lettres. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié, car le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. La Bible ne nous dit pas de pardonner si nous en avons envie, elle nous ordonne de le faire. Celui qui ne pratique pas le pardon est condamné à perdre sa communion avec le Seigneur. Cependant, une mauvaise théologie du pardon peut lui donner un goût amer, injuste et inacceptable. Pardonner une faute, ce n'est ni l'accepter, ni la nier, ni la justifier, et encore moins l'approuver. Certains, par exemple, essayent de se persuader, ou de persuader les autres, que la personne offensante n'a pas voulu vraiment dire ou faire ce qu'elle a dit ou fait. C'est possible, mais le contraire l'est aussi. Jésus nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés, non de nous auto-persuader que ce n'était pas vraiment une offense. Être douloureusement offensé n'implique pas toujours un tort réciproque. Il faut avoir le courage d'admettre, quand c'est le cas, comme entre Joseph et Potiphar, David et Saül, ou Jésus et les pharisiens, qu'un parti a tort et l'autre raison. Il est évidemment bon de s'humilier réciproquement, mais si ce n'est pas fondé sur la réalité, la démarche est bancale. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Matthieu 5, verset 39. Certains chrétiens le font, puis, de surcroît, demandent pardon à celui qui les a frappés. Pourquoi? Par faiblesse ou parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu? Ils commettent ainsi une injustice envers eux-mêmes. Pardonner, ce n'est pas s'aplatir, manipuler sa conscience et ses sentiments, écraser la justice ou tenter un lavage de cerveau, mais c'est choisir tout à nouveau, dans les faits, le meilleur bien de l'autre. Les sentiments, eux, fluctueront parfois encore bien longtemps. L'Écriture nous enseigne la douceur, non la faiblesse, l'humilité, non l'injustice. Jésus a traité publiquement les pharisiens de race de vipères, de tombeaux blanchis et d'hypocrites, sans jamais leur demander pardon. En arrivant dans la cour du temple, il a jeté par terre l'argent des changeurs, renversé leurs tables et chassé les animaux. En traitant ses marchands de voleurs, Jésus n'est pas contre le commerce, mais contre le vol. Jamais il ne s'en est excusé. Il savait qu'il n'avait pas péché contre eux, mais qu'il exerçait la justice de Dieu. Après cette action pour le moins radicale, il lui fallait, pour rester ferme, une conscience bien éduquée, alignée non sur le socialement correct, mais sur la pensée de son Père. À sa place, beaucoup d'entre nous se seraient sentis horriblement coupables. Jésus avait le cœur tendre et le front dur, nécessaire aux prophètes. Mais, diront certains, ne devons-nous pas être débonnaires, conciliants, prompts à nous humilier et à demander pardon? Oui, mais toutes ces qualités ne doivent pas nous entraîner au compromis, à la flatterie, à la dilution de la vérité et à la négation de la justice, sans quoi nous perdrons toute saveur et notre lumière ne sera que blafarde ou voilée. Joseph ne demandera jamais pardon à Potiphar pour la simple raison qu'il n'avait pas fauté à son égard. S'il ne lui a pas demandé pardon, il lui a pourtant pardonné, ainsi qu'à sa femme. C'est humainement difficile à vivre, mais c'est la seule solution. Les conséquences d'une faute commise à notre égard peuvent être énormes et durer toute la vie. Que fait Dieu face à cela? Il nous demande, sur le fondement de son exemple, de pardonner comme lui-même nous a accordé son pardon pour nos graves offenses à son égard. Il nous promet de déployer sa puissance, sa sagesse, son amour pour faire de notre vie une pleine bénédiction, malgré le mal subi et même si l'offenseur ne se repent jamais. Il nous promet le rétablissement d'une justice parfaite pour l'éternité. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe. chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?»« Des prisonniers qui ont l'air tristes ?»« Assurément, dans cette prison-là, ce n'était pas normal. » Le système carcéral égyptien n'a pas transformé Joseph, mais Joseph a transformé ce dernier, au point que tous les prisonniers en bénéficient et que cela se lit sur leur visage. Rien n'a pu arrêter la bénédiction de Dieu. Elle a donc pénétré avec Joseph dans cette prison. Tant de disciples aujourd'hui tiennent un discours opposé, défaitiste. « Je suis la seule chrétienne parmi le personnel de l'hôpital, alors je ne peux rien faire. Je suis le seul croyant de ma classe, alors je me tais. » Si dans un rassemblement de 500 chrétiens, on chuchotait que 3 satanistes étaient présents, beaucoup seraient troublés. Mais croyez-vous que 500 satanistes le seraient si 3 chrétiens leur rendaient visite? Dans l'une de nos campagnes, 3 sorciers étaient spécialement venus de l'étranger pour me tuer. Leur chef, alors que je n'étais pas encore arrivé et qu'un autre évangéliste prêchait, fut saisi par l'Esprit de Dieu et terrassé physiquement. Il se convertit et fut accueilli dans le camp où logeaient 200 chrétiens. En peu de jours, plusieurs se plaignirent de divers problèmes qu'ils attribuèrent à ce jeune sorcier converti. La crainte et les murmures furent tels que, finalement, il dut déménager. Une petite équipe de volontaires alla habiter avec lui ailleurs. Il nous faut relire l'ancienne alliance en saisissant que la nouvelle lui est supérieure. Sans négliger une saine prudence face aux puissances ténébreuses, nous devons comprendre que la lumière fait fuir les ténèbres. Oui, nous pouvons transformer hôpitaux, entreprises, écoles et sociétés, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, conformément à 1 Jean 4, verset 4. Nous entretenons souvent un terrible complexe d'infériorité dont il faut nous débarrasser. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Joseph se prend-il pour Dieu ? Non, mais il est devenu son ami. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Jean 15, verset 15. A dit Jésus à ses disciples. La récompense de Joseph au sein de l'épreuve, c'est Dieu lui-même, sa présence, ses dons. Le chef des échansons raconte alors son rêve. Dans ce dernier, il a vu un plant de vigne à 3 branches, sur lesquelles des grappes de raisin avaient mûri. Il empressait les grains dans la coupe du Pharaon avant de la lui tendre. Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe, comme tu le faisais précédemment. Essaye de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. » En entendant cette interprétation favorable, le boulanger s'empresse de raconter le sien. « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine de pâtisseries préférées du Pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. » Joseph lui apprend que lui aussi sortira de prison, mais pour être pendu, puis dévoré par les oiseaux de proie. De nos jours, nous aurions probablement donné la première interprétation sans hésiter, mais pour la seconde, nous aurions feuilleté notre agenda en marmonnant que, n'étant pas très sûr, nous reviendrions 5 jours plus tard pour vérification. C'est ainsi que nous voulons bien proclamer que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais nous refusons de dire que celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Nous voulons bien annoncer le paradis, mais pas l'enfer. La bénédiction, mais pas l'obéissance. Nous diluons la vérité en annonçant une grâce à bon marché et en passant sous silence le jugement. Mais Joseph, lui, a eu le courage d'annoncer la parole, qui pour l'un avait une odeur de vie et pour l'autre une odeur de mort. Elle s'accomplira exactement pour l'un comme pour l'autre. Joseph espère que le chef des échansons agira en sa faveur après sa libération. L'épreuve du temps. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. 2 ans s'écoulent avant que le pharaon lui-même fasse un songe que personne ne peut interpréter. Pour Joseph, cela signifie 2 ans de prison supplémentaire, alors qu'on peut supposer qu'il en a déjà plusieurs à son actif. Confirmation que, sans intervention divine, il aurait pu y séjourner jusqu'à la mort. Le temps paraît d'autant plus long qu'il n'est pas délimité. La souffrance n'en est que plus aiguë, les questions plus lancinantes, les journées plus interminables. J'ai beaucoup aimé la réflexion d'une femme qui a dit « Si Dieu n'est pas le Dieu du train-train quotidien, alors il ne m'intéresse pas. » Il est vrai que Dieu est aussi le Dieu des journées répétitives, des petites choses que l'on fait par devoir et nécessité jour après jour. Joseph a probablement vécu ainsi jusqu'au moment où Pharaon, dans un rêve, a vu 7 vaches grasses sortir du Nil, suivies de 7 vaches maigres. Ces dernières ont mangé les grasses sans pour autant changer d'aspect. Le roi s'est alors réveillé, puis rendormi et a fait un autre rêve. Il a vu 7 épis gras et magnifiques poussés sur une seule tige, puis 7 épis minables poussés après eux. Ces derniers ont alors englouti les épis gras. Le matin venu, ce fut le grand chambardement au palais royal. Tous les magiciens et les sages de l'Égypte furent convoqués. Le roi leur raconta ses songes, mais aucun ne put lui dire ce qu'ils signifiaient. Remarquons au passage leur incroyable honnêteté. De nos jours, en pareille occasion, certains auraient publié un pavé de 500 pages sur l'interdépendance entre l'élevage et la culture, d'autres auraient prophétisé la fin du monde en 14 étapes. Les journalistes auraient produit une série télévisée sur la numérologie. Les psychanalystes auraient offert au pharaon une thérapie sous hypnose. Les diététiciens un régime anti-cauchemar. Les écologistes proposaient un programme urgent d'assainissement du Nil. Et les vétérinaires réclamaient des subsides pour la recherche sur les parasites bovins. Quelle humilité parmi ces sages et magiciens! Peut-être cette vertu était-elle quelque peu dopée par les conséquences d'une erreur d'interprétation. Il semble que devant Pharaon, l'on ne pouvait pas exagérer, diviser, manipuler ou mentir au nom de la liberté d'expression. Toujours est-il que les chansons se souvinrent enfin de Joseph et de l'interprétation exacte qu'il avait reçue de lui. Courageusement et devant toute la cour, il raconta son séjour en prison et sa rencontre avec un étonnant personnage capable d'interpréter les songes. L'accomplissement de la vision. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Quand le roi eut expliqué la raison de sa convocation, Joseph répondit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » À 17 ans, devant son père et ses frères réunis, Joseph s'exclamait « Écoutez donc le songe que j'ai fait. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » 13 ans plus tard, devant le roi et tous ses sages réunis, il rend gloire à Dieu. Le caractère de Christ s'est formé en lui. Pour sa part, l'apôtre Paul l'exprimera ainsi. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Joseph dit au Pharaon, « Vos 2 rêves ont le même sens. Dieu vous avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. Les 7 autres vaches, chétives et affreuses, et les 7 épis rabougris desséchés par le vent représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. Maintenant donc, Majesté, Cherchez un homme intelligent et sage, et donnez-lui autorité sur l'Égypte. Nommez aussi des commissaires chargés de prélever un cinquième des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance, pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine, et le pays échappera au désastre. La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon et aux gens de son entourage. Le Pharaon leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ?» Puis il dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume, et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. » Le pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph. Il le fit habiller de fins vêtements de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur, et les coureurs qui le précédaient criaient « Laissez passer !» C'est ainsi que le pharaon lui donna autorité sur toute l'Égypte. Saisissons-nous la valeur du pardon? Joseph contribuera à sauver le peuple qui, sans raison, l'avait d'abord réduit à l'esclavage, puis enfermé durant les plus belles années de sa jeunesse. Non seulement toute l'Égypte sera sauvée de la famine, mais également les peuples alentour, et, en particulier, ses 10 frères qui, finalement brisés, seront restaurés. Avec Benjamin et Joseph, ils formeront l'origine des tribus d'Israël, descendance par laquelle Dieu bénira la terre entière. Ceux qui avaient tout mis en œuvre pour détruire cette vocation seront en fait sauvés par elle. Joseph leur dira, « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Genèse 50, verset 20. Un pasteur, rencontré au centre du Bénin, m'a dit, « Lorsque je me suis converti, il y a 25 ans, mon oncle a juré publiquement de me tuer. Aujourd'hui, il ne prend aucune décision importante sans d'abord venir me consulter. Il est très fier d'avoir un neveu pasteur. » Combien de fois ai-je entendu des témoignages allant dans ce sens? Des parents dont le fils voulait faire une école missionnaire lui ont dit, « Si tu y renonces, nous t'offrons une voiture neuve et un appartement meublé. » J'ai vu ces mêmes parents 10 ans plus tard, remplis de fierté devant l'œuvre missionnaire accomplie par leur enfant. L'amour et le pardon sont plus puissants que les bombes, qu'elles soient morales, chimiques ou atomiques. Ces valeurs sont si puissantes qu'elles peuvent sauver même la famille qui vous aurait vendu. Si l'un de mes lecteurs n'a pas encore reçu Christ, j'espère qu'il dise à cet instant, « Je veux vivre pleinement avec l'Esprit de Jésus-Christ. Je veux que le Dieu de Joseph devienne mon Dieu. » L'Esprit de Christ triomphe de l'Esprit du monde. Même celui qui planta les clous dans les mains de Jésus pouvait être sauvé par lui et être considéré comme s'il n'avait jamais péché. C'est cet Esprit qui peut bouleverser famille, village, ville et nation. C'est lui qui peut réconcilier des peuples déchirés et restaurer des pays ravagés. Aujourd'hui, Dieu cherche des premiers ministres, tels que Joseph, également des médecins, des avocats, des journalistes, des enseignants, et tant d'autres de toute profession qui éclaireront la société de l'Esprit de Christ. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Si elle nous appelle à prier pour les personnages haut placés, ce n'est certes pas dans le dessein qu'une fois gagné à Christ, ils démissionnent, mais bien qu'ils glorifient Dieu dans leurs fonctions. Joseph est certainement resté plus de 14 ans premier ministre d'Égypte. Il avait été rejeté, vendu, tenté, accusé, emprisonné, oublié. Mais dans toutes ces épreuves, sa détermination à surmonter le mal par le bien a triomphé. Dieu a changé ses circonstances. Dans sa famille, il est passé du méprisé au sauveur. Chez Potiphar, d'esclave à intendant, et pour Pharaon de prisonnier à premier ministre. Après l'avoir rejeté, ses frères viendront se prosterner devant lui. Vendu comme du bétail, il deviendra pourvoyeur et gérant d'une incroyable fortune. Harcelé sexuellement, il sera le gendre du roi, béni par la naissance de ses fils Ephraïm et Manassé. Victime de la plus grossière injustice, il sera honoré de tous les Égyptiens. Oublié dans son cachot, il vivra des décennies en homme libre, exerçant de hautes fonctions internationales.